Alors, nous retrouvons Margot Blanchard. Nous allons maintenant parler toujours de ce concert du 16 novembre. Alors, ce sera une œuvre de John Blow, donc un compositeur anglais de la fin du XVIIe, avec un opéra. Alors, je lisais, certains disent c'est le premier opéra anglais, et puis d'autres spécialistes disent c'est le dernier masque. Alors, qu'en est-il? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette différence entre la tradition anglaise du masque et puis de l'opéra.
Oui, alors le masque, on est donc sur. Déjà, il y a plein de il n'y a pas vraiment de standardisation de la forme à cette époque-là. C'est-à-dire que l'appellation masque, on peut la retrouver et la forme est tout en évolution et le nom d'opéra n'a pas encore été posé. Mais c'est intéressant de voir ça avec notre œil d'aujourd'hui et notre écoute d'aujourd'hui, et effectivement de se demander si c'est la fin d'un cycle ou le début d'un autre. Je dirais que moi me fait pencher vers le début de l'opéra. Déjà la similitude avec l'opéra de Henry Purcell qui l'a composé 7 années plus tard, Didon et Énée, au niveau du format, de l'histoire et de la structure dramatique. Et puis justement sur cette patte dramatique qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de divertissements qui vont venir interrompre l'action. Il y a quelques danses, mais elles doivent certainement servir plus à des changements de décor. Que vraiment avoir une fonction de divertissement. Et en fait, ce qu'on reconnaît dans la forme opératique, c'est vraiment cette densité dramatique d'emmener le spectateur d'une histoire du début à la fin.
Alors, c'est un opéra court, hein, il dure une petite heure, mais il y a quand même un prologue et trois acteurs. Vous évoquiez Purcell, les opéras de Purcell, je crois qu'ils ont une quinzaine d'années d'écart, John Blow et Purcell. Cette longueur qu'on va retrouver chez Purcell, qu'est-ce qui fait que c'est aussi court, cette forme?
Oh, mais on peut prendre ça un petit peu. Déjà, c'est le livret. Donc, c'est une librettiste qui a imaginé cette histoire, Anne Kingsmill. Mais bon, le parrainage enfin, a été un peu discuté de ce livret. On ne sait pas exactement. Voilà, c'est la longueur du livret aussi et le traitement de ce livret qui va beaucoup changer les choses. C'est-à-dire que peut-être que John Blow ne s'est pas encore autorisé à développer une phrase sentimentale, expressive, sur 4 minutes de musique. En vérité, chaque moment dramatique est très identifiable et très caractérisé musicalement, mais il va le faire très court. Alors évidemment, ça peut être un peu frustrant. C'est pour ça que nous, musiciens d'aujourd'hui, quand on réaborde ce répertoire, on s'autorise parfois à rajouter quelques reprises pour faire durer tout simplement un peu plus l'émotion, qui pour un public d'aujourd'hui passerait trop furtivement. Donc c'est la même manière en fait de traiter la dramaturgie en musique qui va plus ou moins allonger une œuvre. Après, moi, ça ne me déplaît pas que ce soit une œuvre courte. Enfin, aujourd'hui, on se plaint beaucoup des prises d'otages pendant les 3h30 d'opéra quand on se déplace et qu'on a une babysitter à payer, par exemple. Donc, moi, je trouve ça merveilleux, en fait, d'avoir des œuvres qu'on n'a pas besoin de couper, parce que, pour être honnête, à part le répertoire bel cantiste, il y a aussi beaucoup d'opéras baroques qui sont un peu coupés. On enlève un chœur par-ci, un récitatif par-là. Parfois, on coupe même un rôle. Parce que, par exemple, dans les opéras italiens début du 18e, il y a tellement de rôles qu'aujourd'hui, à l'opéra, on ne pourrait pas se payer un plateau comme celui-là. Alors, même si on réussit à faire chanter 4 personnages par un chanteur, parfois, c'est quand même, ça atteint ses limites. Et on finit par couper un rôle, une scène, pas un acte, mais plusieurs scènes. Donc, la question de la longueur, moi, je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir retourner à ces œuvres qui pourraient paraître un peu comme des nouvelles, ce que sont les nouvelles à la littérature, mais qui nous permettent, justement, dans un temps très court, de faire passer tout un panel d'émotions au spectateur. Donc, c'est plutôt riche.
D'accord. Alors, il y a, vous le évoquiez, c'est une librettiste qui a écrit le texte de l'opéra. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu des discussions sur quelle était l'identité de ces librettistes, mais de toute façon, c'était bien une librettiste. Est-ce que c'était quelque chose de radicalement nouveau pour l'époque, ou est-ce que c'était assez courant ?
Alors, je suis pas spécialiste pour l'opéra anglais, mais ce qui est certain, c'est qu'en France, c'était pas courant.
D'accord.
En France, ce n'était pas courant. Par contre, c'était de vraies belles collaborations qui s'installaient dans le temps. Voilà, on sait que Hubert de la Motte, par exemple, a fourni beaucoup d'opéras à Jean-Baptiste Lully, Marc-Antoine Charpentier. Parfois, ils travaillaient avec les mêmes librettistes. Mais je pense qu'il y avait plus une histoire de privilège aussi dans tout ce qui était Académie royale de musique en France, qui disait que les femmes n'avaient peut-être pas leur place dans ce monde-là. Donc c'est une surprise aussi pour moi de voir que c'est une librettiste. Mais après, je trouve voilà le personnage féminin de Vénus extrêmement bien traité. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et ce qu'on permettait à une femme, finalement, d'avoir peut-être... un peu plus d'humour et d'autodérision pour ce qu'était la cour de Charles II à l'époque. Voilà, question ouverte.
Voilà, question ouverte. Et puis les deux rôles principaux, si je ne me trompe, sont féminins. Bon, chantés par des femmes, en tout cas.
Ah oui, parce que vous pensez au rôle de Cupidon. C'est vrai qu'on a Vénus, Adonis, et Cupidon, donc le fils de Vénus, qui la blesse accidentellement et qui fait qu'elle tombe... amoureuse, raide, dingue d'Adonis, un mortel. Cupidon, alors on est sur une tessiture, on peut quand même, nous, pour le coup, on a privilégié un chanteur homme, un contre-ténor, avec un registre, on va dire, médio. Mais effectivement, il y a beaucoup d'interprétations qui ont été faites de ce rôle par des femmes. Moi, je trouve que pour un peu mieux caractériser le rôle de Cupidon dans l'opéra, c'était intéressant de le faire jouer, de le faire chanter par un homme, mais ça a été aussi très souvent donné, et peut-être même originellement, par un enfant. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. D'accord. De recruter des enfants spécialistes de ce répertoire pour compléter le casting. Et c'est vrai que la création originale est attribuée à une voix d'enfant, a priori à une voix de petite fille d'ailleurs.
D'accord. Bien, merci beaucoup Margot Blanchard. Alors on rappelle le jeune orchestre baroque européen sous la direction, votre direction en l'occurrence. Là vous alternez avec Sylvain Sartre c'est le 16 novembre à Saint-Gély-du-Fesc à la salle Brassens et ça se passe à 20h30. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Puis je peux peut-être préciser quand même une dernière chose, c'est que le texte anglais sera surtitré.
Alors, tout à fait. Ce sera surtitré, ce sera mis en lumière, ce sera dirigé par Sylvain Sartre, hein, parce que c'est bien sa promotion qui sera sur scène. Et puis, je voulais évidemment ajouter que ce projet n'existerait pas sans nos partenaires nombreux. On les remercie vraiment de pouvoir faire exister ce jeune orchestre. Dans les temps actuels de la culture, on a beaucoup de chance d'être accompagné par la Caisse des dépôts, la Fondation Orange, la Fondation Saint France. Et bientôt, la Fondation Saint-Gerpolinac qui accueillera les prochaines auditions.
Bien. Eh bien, merci beaucoup, Margot Blanchard. Et puis, moi, je serai là. Je viendrai vous écouter cet opéra ou masque de John Blow. Et merci pour tous ces détails. Et puis, bon concert.
Formidable. Merci.